Le pape François a voulu que ce dimanche, pour toute l'Église, soit un dimanche au cours duquel nous réapproprions la parole de Dieu. Il a voulu faire ce dimanche le dimanche de la parole de Dieu, bien que la parole de Dieu ce soit tous les dimanches, mais pour que nous arrêtions dans l'année un moment pour mesurer ce que la parole de Dieu est pour nous. Une petite anecdote. L'autre mercredi soir, avec le père Lionel et le père Fadi, nous étions en train de prier les vêpres dans l'oratoire. J'avais pas eu le temps de prendre mon bréviaire, du coup je priais l'office, je chantais l'office avec mon téléphone, que j'avais pris soin de mettre en mode avion. Le père Fadi fait la lecture de la parole de Dieu, et je ne sais pas pourquoi, mon téléphone s'est mis à parler, en reconnaissance vocale ou je ne sais pas quoi, et il s'est mis à dire tout fort: je n'ai pas compris. Est-ce un signe du ciel pour nous inviter à chercher à mieux comprendre la parole que Dieu nous adresse à travers ce trésor immense dont nous sommes dépositaires, la Bible, les Écritures saintes? Si on y réfléchit, comment aurions-nous pu connaître Dieu sans la Bible, sans sa parole? C'est vrai que dans la vie humaine, comment pourrions-nous nous connaître si nous ne nous parlions pas? On ne connaîtrait pas grand-chose de ce qu'est vraiment l'autre. Et encore plus pour quelqu'un qu'on ne voit pas, Dieu, que nul œil n'a jamais vu, que nulle oreille n'a entendu. Comment savoir qu'il est là? Comment le connaître? Comment le reconnaître? On peut prier, et c'est bien, tout seul dans sa chambre, à la recherche d'émotions, de gousi-gousi intérieur et spirituel, mais ça ne nous dira pas vraiment qui est Dieu. Dieu nous a laissé sa parole pour que, à travers cette parole, nous puissions le connaître et connaître ce qu'il veut vivre avec nous et connaître ce qu'il nous propose de vivre avec lui. Cette parole, elle a d'abord été vraiment parole au sens de parole orale, que ce soit l'Ancien Testament ou tous les écrits du Nouveau Testament, à l'exception certainement des lettres, puisque les lettres, on les écrit avant de les envoyer, et certains livres du Nouveau Testament, mais même les évangiles et les textes de l'Ancien Testament ont d'abord été portés par une tradition orale. Ces histoires que l'on se racontait de père en fils, de grand-père à enfants et petits-enfants, le soir, dans le désert, autour d'un feu de bois, ces histoires de bédouins, ces histoires de ce peuple, cette tradition orale qui s'est transmise de génération en génération pendant des siècles. Et il a fallu un jour la mettre par écrit parce qu'il y avait cette peur que cette tradition orale se perde. Il y avait cette peur que ce que ce peuple a porté comme parole de Dieu puisse être perdu. Par exemple, lorsque le peuple est parti en exil à Babylone, loin de sa terre, loin du temple, loin de la ville sainte, une épreuve majeure, et c'est en exil que le peuple a éprouvé le besoin de mettre par écrit cette parole. Pour les évangiles, il en est de même. On dit souvent que Marc a mis par écrit la prédication de l'apôtre Saint-Pierre, que Luc a mis par écrit la prédication de l'apôtre Saint-Paul, que Saint-Jean a mis par écrit ce qu'il a voulu transmettre aux disciples du Christ, lui le dernier apôtre à survivre à tous les autres. Il fallait que puisse durer, demeurer, pour que cette parole soit transmise, l'enseignement des apôtres, ce dont ils ont été témoins du Christ Jésus. Cette parole, elle a été mise par écrit comme parole de Dieu, inspirée par Dieu. Non pas une parole dictée par Dieu lui-même, mais écrite par des hommes que l'on croit avoir été inspirés par Dieu, dans la manière dont ils ont compris comment, à travers les événements de leur histoire, ils ont découvert ce Dieu qui les aimait, ce Dieu qui les avait créés par amour, ce Dieu qui les sauvait par amour, ce Dieu qui sans cesse les conduisait sur un chemin de vie, qui ne cessait de les relever de toutes leurs difficultés, toutes leurs épreuves, toutes leurs chutes. C'est pour cela que cette parole, c'est très important de comprendre ça, est toujours liée à une communauté particulière. La parole de Dieu est toujours portée par une communauté de croyants. C'est si vrai que si vous achetez une Bible, une Torah juive, une Bible catholique, ou une Bible protestante, ou une Bible orthodoxe, vous verrez qu'il y a des choses différentes. Certains livres ne sont pas retenus par telle ou telle tradition, par telle ou telle communauté. La parole de Dieu est cette parole gardée précieusement et transmise par cette communauté de croyants, parce qu'elle a reconnu en cette parole le moyen de connaître son Dieu. Elle y a trouvé les mots pour parler à son Dieu. Elle a trouvé les mots qui lui faisaient comprendre ce que Dieu veut vivre avec elle et ce à quoi cette communauté de croyants est appelée. Je crois que nous pouvons tous dire ici que la parole de Dieu, nous l'avons reçue de l'Église, qui me l'a fait entendre et qui m'aide à la comprendre. Comment l'Église me fait comprendre cette parole ? Pour nous chrétiens, c'est ce que l'Église nous propose de découvrir, c'est que cette parole de Dieu est la parole du Christ, la parole de celui qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et à travers la Bible, le chrétien est invité à reconnaître combien c'est le Christ qui parle dans les Écritures et combien les Écritures parlent du Christ. À la fois, c'est la parole du Christ et en même temps, c'est une parole qui nous fait connaître le Christ, qui nous le fait découvrir. Si je prends l'exemple de cet évangile que nous venons d'entendre, je vais vous relire quelques passages. En fait, c'est presque tout l'évangile, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Saint Matthieu nous invite à comprendre comment le Christ est cette parole de Dieu. Je cite, « C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. » Quelle est donc cette lumière pour l'évangéliste saint Matthieu? Cette lumière annoncée par le prophète Isaïe 700 ans avant ce moment-là, c'est le Christ lui-même, ce Christ annoncé par les Écritures, prophétisé par les prophètes, et qui vient ici, 700 ans plus tard, accomplir cette promesse faite par Dieu à son peuple. Et l'évangéliste poursuit, « À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comment Jésus commence sa mission ? Avec une proclamation, proclamation de la parole de Dieu qu'il est lui-même. Il se met à parler, il se met à proclamer. Après avoir parlé par les prophètes, le Christ, la parole éternelle du Père, se fait entendre maintenant directement. Il est proclamation lui-même de cette parole de Dieu au milieu des hommes, proclamation immédiate, sans intermédiaire, sans figure, sans ombre. Ce sera tout le ministère public de Jésus, tout son désir, faire entendre aux hommes la parole de Dieu. Faire entendre ce que Dieu veut être pour nous et ce que nous sommes invités à être pour lui. L'évangéliste poursuit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Vous avez peut-être remarqué combien la parole de Jésus est comme cette parole de Dieu. Au début du livre de la Genèse, lorsqu'il crée le monde, Dieu dit « et cela est ». Jésus dit « venez à ma suite » et aussitôt ils le suivirent. Cette parole de Dieu qu'est le Christ, qui est une parole de vie, une parole qui invite à marcher vers Dieu, à suivre le Christ pour connaître Dieu, pour le découvrir, pour le connaître. L'évangéliste poursuit encore, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. » Si vous regardez, vous relisez tous les évangiles, vous verrez que Jésus ne cesse de marcher. Il ne cesse de parcourir toutes les régions de ce pays qu'il a habité. Il parcourt particulièrement la Galilée des nations, ce lieu autour du lac de Tibériade qui était habité par toutes sortes de peuples avec des cultures et des religions différentes. C'est comme si Jésus était cette parole de Dieu qui parcourait toute l'humanité à travers tous ces peuples représentés autour du lac. Et cette parole qui est toujours en chemin pour se faire entendre de tous les hommes, cette parole qui parcourt toute la terre pour être entendue par tous, une parole de vie pour tous les hommes, une parole de Dieu qui guérit et qui sauve. C'est la mission même de l'Église aujourd'hui, faire entendre le Christ qui continue de parler aux hommes. Voilà notre mission prophétique de baptiser. Voilà ce que le Seigneur nous demande de vivre, mais il nous donne la force de le vivre, que par nous, à travers nous, cette parole du Christ puisse encore être entendue comme une parole de vie pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Par l'Église, le Christ adresse à tous les hommes cette parole de vie, une parole qui fait connaître qui est Dieu et qui nous sommes pour lui. Nous avons la chance de vivre en 2020 et de pouvoir nous émerveiller que cette parole de Dieu, qu'est la Bible, a été traduite, combien de langues d'après vous ? 674 langues différentes. C'est dire que par l'Église, par l'Esprit qui anime l'Église, par tous ces missionnaires, par tous ces apôtres qui se sont succédés de génération en génération, tous ces témoins, tous ces transmetteurs de la parole, il y a ce grand miracle aujourd'hui, 2000 ans après, la parole de Dieu se fait toujours entendre et elle est toujours intacte. Elle est toujours comme elle a été au début, comme le Christ l'a fait entendre. Elle est toujours cette parole de vie, cette parole d'espérance, cette parole qui nous montre l'horizon de notre vie, cette présence de Dieu au milieu de nous, qui nous accompagne chaque jour à travers joie et peine pour nous conduire à la vie en plénitude. Alors rendons grâce pour ce cadeau immense qui nous est fait d'être héritiers de cette parole. Demandons la grâce aussi d'avoir toujours le désir de mieux la comprendre, de chaque jour nous en nourrir et de savoir en être témoin et de la faire entendre autour de nous. Amen.